Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles.
Non mais c'est intéressant, c'est un vrai sujet.
Non mais tu me pièges déjà, mais c'est non, trop tôt là. Non, j'ai pas... En fait, à la base, j'ai pas envie de dire mon âge parce que c'était par peur du jugement des gens sur le fait que je sois une fille et qu'en plus je sois jeune. Donc c'était vraiment tout au début que c'était un truc okay. Un peu phobique pour moi de le dire. Et je crois que c'est soit devenu une habitude, soit une pudeur. Je ne saurais pas trop okay. Dire. Ou pour me protéger, j'en sais rien.
Tu resteras toujours.
J'ai pas de vraie explication à ça.
Un peu comme Cher, tu vois. On ne sait pas quel âge elle a avant.
C'est déjà la meilleure comparaison. Ça commence bien.
Alors cette semaine, je reçois Laura Gilly. Salut Laura.
Coucou Fab.
On dit Laura Gilly, hein, c'est
oui,
bien ça, on dit
Laura
pas Laura
Gilly. Je crois que t'es un des rares à le dire. J'ai abandonné. J'accepte toutes les prononciations maintenant. Okay. C'est vraiment, il y a un abandon complet de ça.
Laura, tu es photographe. Je pense que tu es une photographe sans âge, donc.
On peut dire ça. Je suis la chair des photographes, on va regarder ça.
Waouh. Chair des photographes. Non mais c'est vrai, on ne sait pas vraiment quel âge est la chair.
Ouais, c'est...
Je sais pas, tu vois, pour
moi... Il y
a
pas mal d'artistes comme ça.
Elle est timeless, tu vois.
Ouais,
et bah, dis-toi génial. Que si ça tombe dans 50 ans, tu seras encore là, tu vois, tu seras dans le game. Et on saura pas vraiment quel âge aura Laura. Trop bien.
C'est génial.
C'est une très bonne idée. Tout ça partant de ton syndrome de l'imposteur ou du fait que t'es pas envie qu'on connaisse ton âge et qu'on te prenne peut-être pour pas assez crédible.
C'était ouais, ça, sans doute. Je pense que c'était l'objectif. Ça quand j'étais plus jeune, du coup. Non, ouais, je pense que c'était vraiment ça la base du truc. C'était une peur que ça change la vie des gens sur moi et qu'on ne regarde plus que mon travail, mais aussi l'âge que j'ai. Elle a un peu l'âge des fans, des gens à qui elle travaille, donc c'est bizarre. Enfin, je pense que j'avais peur de ça vraiment.
Ah ouais, carrément.
Bah, quand t'es une fille, que tu travailles avec des artistes, tu peux vite passer. Moi, maintenant, je pense, mais tu pouvais vite passer pour une groupie très vite.
Ah yes.
Donc je pense que j'avais vraiment très peur de ça.
Attends, on va en parler. Parce que je pense que ça fait, c'est constitutif de ton parcours aussi, quoi, tu vois, de réussir à t'incruster, entre guillemets, rentrer dans ce monde, en fait. Laura, vous avez sans doute déjà vu des photos d'elle si vous traînez un peu sur Internet d'une manière ou d'une autre, mais vous ne savez pas forcément que c'est des photos d'elle, parce que c'est un peu le concept du photographe ou de la photographe, c'est qu'elle fait le job, mais elle s'efface derrière la caméra. Vous avez peut-être déjà vu des photos d'elle si vous suivez sur les réseaux des petits jeunes comme McFly et Carlito, par exemple, qui débutent et qui gagneraient à être connus. Ou alors des jeunes chanteurs qui, eux aussi, mériteraient d'être un peu plus connus, notamment Orelsan, par exemple. Quoi. En attendant, on va parler de tout ça après, de comment tu as fait pour devenir un peu cette... J'ai un peu la sensation que t'es un peu la photographe officielle de la jeune génération des mecs et des meufs cool, quoi, tu vois.
Non, je pense que, en fait, à l'époque, oui, il y avait des photographes officiels vraiment. Et maintenant, c'est tellement démocratisé que je pense que ça n'existe plus vraiment. Ouais. Mais je pense que j'ai la chance d'être arrivée au bon moment, au bon endroit et d'avoir construit une confiance qui fait que je peux être sur beaucoup d'événements divers avec ces gens-là. Parce qu'il y a de l'amour et il y a de la confiance et ça fonctionne bien. Mais je réfute ce mot officiel, en fait. Puis c'est très bizarre de dire photographe officiel d'eux, mais j'ai l'impression que ça ne laisse plus la place aux autres qui voudraient peut-être un jour aussi venir travailler avec ces gens-là.
C'était un peu une vanne, tu vois, à la base.
Mais moi, je suis très premier degré là-dessus.
Non, mais t'inquiète. En plus, je comprends que tu réagisses là-dessus. C'est intéressant.
Ouais, et c'est très bizarre la pression quand on dit « Ah, t'es la photographe officielle d'eux ».
Ah, il y a vraiment d'autres gens qui le disent ?
Ah oui, c'est très, très répandu comme phrase. Et en fait, il y a une pression personnelle de « Ok, donc le jour où c'est quelqu'un d'autre qui travaille avec eux, ça veut dire que j'ai perdu ma place à vos yeux et que du coup, ça me met une pression que j'ai pas envie et que je me mets pas à moi-même, donc je veux pas que les autres me la mettent. » Parce que c'est pas... Je dis souvent mes artistes parce que c'est de l'amour que j'ai pour eux, mais c'est pas mes artistes à proprement parler. Ils me doivent rien, ils sont pas obligés de travailler avec moi, ils peuvent changer.
Comment ça, ils t'appartiennent pas ?
Non, c'est pas à moi. Donc ouais.
Ok. La première question que je pose à tous mes invités, Laura, c'est à quoi ressemblait Laura quand elle avait 7-8 ans?
Waouh.
T'as eu un petit moment de peur dans une petite expression de peur dans ton regard là. Oh non, qu'est-ce qu'il me fait faire?
Il faut que je me rappelle en fait, c'est ça surtout.
Non, ouais, mais tu t'en rappelles.
J'avais les cheveux très bouclés et très longs.
Ok.
Mais
ouais, moi aussi, tu vois, mais après, c'est des choses qui changent.
C'est des choses qui changent, effectivement. Et ça peut re-changer derrière.
Oh.
Après, mentalement, je ne saurais pas te le dire. J'ai pas trop de... En fait, je crois que j'arrive pas à me rappeler par âge.
Okay.
J'ai des souvenirs un peu vagues de périodes de ma vie, mais 7-8 ans, c'est...
C'est
très flou.
Alors
pour
après,
moi.
Parce que tu vivais en Suisse.
Je vivais en Suisse, ouais.
T'es suisse. Mais c'est l'équivalent du CE1, CE2, tu vois.
Ouais. Mais
c'est pas encore...
Non, je crois que j'étais très insouciante par rapport à maintenant, en tout cas. Et heureusement, okay. Parce que c'est l'âge où tu dois être quand même insouciant et pas penser aux autres, à ce qu'on peut penser de toi, avoir des angoisses sur des trucs. Donc je pense que je dirais que j'étais insouciante. Puis que, je sais pas, je vivais, j'avais des potes, c'était cool. Je faisais beaucoup de sport à cette époque.
Tu faisais quoi?
Du patinage artistique.
Oh.
Et je pense que c'était ça. J'avais des amis, j'avais les cours et puis j'avais le sport. Puis ça me suffisait, ça me comblait en fait, j'étais trop contente.
Comment t'en étais venue au patinage artistique?
Par hasard. Toute petite. Je pense que je devais avoir 3-4 ans, un truc comme ça. Je suis allée à la patinoire avec ma maman, ma meilleure pote d'enfance et sa maman, elle. On était des familles, on se voyait beaucoup. Et ma mère m'a mis... C'est ce que ma maman me raconte, hein. Je sais pas, je me rappelle pas. Mais on m'a mis sur des patins et je suis partie et j'ai kiffé. Et on m'a mis ensuite en cours collectif avec beaucoup d'autres enfants. Et il y a une prof qui m'a repéré, prof de patinage artistique, du coup, qui a dit « Ah, je voudrais l'avoir comme élève en cours privé pour développer ça et tout. » Et s'en est suivi 12-13 ans de patinage artistique.
Ah oui.
Où dès que je finissais les cours, c'était le sport. Donc voilà.
Ah oui, tu...
Donc, grande période de ma vie, ouais.
Oui,
très longue et très, très marquante période de ma vie, ouais.
C'est en passant, mais tu devais avoir un bon niveau.
Ouais, c'était...
T'as fait de la compète?
J'ai fait de la compète, j'ai fait beaucoup, beaucoup de compètes depuis très petite. J'ai beaucoup de vidéos et d'images de ça aussi, de moi toute petite en petite robe de patinage. Et c'est drôle, c'était une trop bonne école de vie, le sport, en fait. Je pense que c'est le truc qui a forgé tout ce que je suis aujourd'hui. Enfin, peut-être pas tout, mais une très grande partie.
Dans quel sens? Ah, moi, tu vas pas me dire des trucs comme ça sans développer. Hein,
oh là là. Non, bah déjà, tu vois, c'est un sport individuel. Enfin, je l'ai fait en sport individuel. Il existe de la synchro dans le sport collectif, en patinage. Moi, j'ai fait de l'individuel et de la compétition. Donc, quand on te met très jeune dans des compétitions, tu développes un esprit sportif où tu as envie de gagner, de donner le meilleur de toi-même, etc. Et oui, j'avais pas aussi la même vie que tout le monde. J'ai toujours été un peu à part parce qu'à l'école, j'allais pas jouer avec mes potes quand l'école était finie. J'allais m'entraîner à la patinoire. Et je pense que ça a développé, en plus, je suis fille unique. Donc je pense que ça a développé un truc de mon côté peut-être carriériste. Je sais pas si ce mot est positif ou négatif quand on le dit, mais.
Tu le dis de façon positive.
Ouais. Oui, j'essaye. Donc ouais, d'être toute seule et de me battre toute seule pour ce que j'ai envie et d'essayer de me dépasser moi-même. Tout le temps et d'avoir aussi beaucoup appris les échecs et de tomber du coup physiquement à l'époque et maintenant différemment quand tu tombes de haut d'un échec ou d'un truc qui ne va pas, je sais me relever et je sais que ça fait mal et j'ai vraiment appris ça, donc je pense que là-dessus ça m'a beaucoup apporté.
Ok. Et t'as la sensation que c'est parce que tu dis carriériste, mais pour moi il y a aussi une forme d'ambition, c'est ça?
Ouais, je pense.
Et tu penses que c'est à travers le sport que tu as forgé cette ambition-là?
J'ai l'impression, maintenant que je sais pas, il y a des réflexions que j'ai spécifiquement, mais maintenant que j'en parle, ouais, je pense que, comme je te disais, quand on te met en compétition, t'as envie de gagner, t'as envie d'être sur la plus haute marche du podium, parce qu'il faut toujours viser le plus loin possible.
Pas tous les enfants, hein. Non, mais c'est
ouais.
Vrai.
Ouais, c'est possible.
Tu crois pas?
Après, il faut aussi prendre du plaisir dans ce que
oui,
tu fais,
ça.
Bien entendu. Mmh. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, tu le fais parce que tu aimes. Mais si en plus d'aimer ce que tu fais, tu peux être sur la première marche du podium, on ne dit pas non, quoi, tu vois. Donc je pense que...
Mais ça, disons que ça nécessite du travail d'arriver
ouais.
À la première marche sur le podium.
C'est ça.
Et tu n'avais pas peur de ce travail-là?
Non, mais je crois que j'aime bien avoir un... En fait, depuis toujours, j'ai du mal à travailler. Il faut que j'ai un objectif pour travailler. Il faut que j'ai une deadline, un truc. Et je pense que ce podium, c'était peut-être mon objectif de l'époque qui me motivait à travailler. Tout comme aujourd'hui, quand j'ai des rendus photos, je les fais très souvent à la dernière. Il ne faut pas que vous écoutiez ça, les gens qui travaillent.
À la dernière minute,
mais,
tu veux
ouais,
dire
oui, mais okay. Tout comme les devoirs, en fait, si je n'avais pas un rendu le lendemain, si tu me les donnes 5 jours avant, je ne les ferais pas 5 jours avant. Je les ferais le jour d'avant pour les rendre au bon moment. Et donc je crois que j'ai besoin qu'on me dise c'est à ce moment-là que ça se termine et que pour moi peut-être la fin d'un truc c'était le podium, enfin c'était réussir à aller au maximum de ce qui est possible. Donc
OK. Pourquoi t'as arrêté? T'avais quel âge? 15 ans.
J'ai arrêté, ouais, je crois que j'avais 15-16 ans pour des problèmes de santé.
OK.
Et qui faisait que j'étais incapable de revenir au même niveau sans faire encore trop de sacrifices qui n'étaient pas envisageables pour moi à cette période-là.
D'accord.
Et l'adolescence, etc. Enfin, plein de trucs dans la tête aussi qui font que c'est moins simple de tout sacrifier quand t'es en adolescence que quand t'es jeune. Parce que t'as plus conscience de ce qu'il y a autour et de ce que tu peux perdre. Donc ouais, des problèmes de santé et qui au final ont fait que j'ai arrêté ça. Et si j'avais pas arrêté le sport, j'aurais peut-être jamais fait de la photo. Sûrement même. Donc en fait, je crois que les choses se déconstruisent et se construisent comme elles doivent.
Et tu disais que t'avais conscience quand t'étais adolescente des trucs que t'étais en train de perdre. C'était quoi? Tu parlais de ta vie sociale tout à l'heure, c'est ça notamment?
Ouais, notamment. Je pense que c'est ça. Et
Tu t'entraînais combien d'heures par semaine?
13-14.
Ah ouais.
À différentes périodes. Enfin, ça dépendait aussi, mais ouais, par là autour. Et je pense que c'est aussi un truc de à quel point mentalement t'es prêt à faire face aux échecs, parce que j'avais vraiment perdu toute ma condition physique, etc. Tout prendre à zéro, à quel point t'es OK de dire que ce que t'étais capable de faire il y a 6 mois, tu peux plus le faire aujourd'hui. Et je pense que j'étais pas non plus prête à affronter ça. Sans être sûre de pas avoir une blessure entre deux, en fait, le sport, c'est tellement, ouais. J'apprends rien à personne, hein. C'est très difficile et...
Je pense que les gens qui ont jamais pratiqué de sport, ils savent pas. Et surtout de sport à haut niveau, quoi, tu vois. T'as un truc de... Enfin, mais tu le sais, hein, tu vois, un truc de tout donner, 13 heures de ta vie par semaine.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même beaucoup.
Et tout ça peut se briser en une blessure ou en un truc, et c'est très très injuste comme... injuste. Oui, c'est injuste en fait, le sport.
Mais t'étais parti pour suivre un parcours pro?
C'est compliqué, le pro dans le sport. Ça aurait été mon rêve en tout cas. Est-ce que j'en aurais été capable ou pas? Enfin, tellement aléatoire. Ça me paraît très prétentieux de dire oui sans savoir
mais
ce
qu'il y a. T'en avais l'ambition?
Ouais,
avant cette blessure.
C'est ce que je rêvais de faire. Enfin, c'était peut-être plus à 15 ans, mais un peu avant. Je pense que j'avais un peu abandonné en voyant les difficultés du truc.
Ok. Qu'est-ce qui t'a fait switcher, en fait, à l'époque? T'as la sensation entre ton rêve, peut-être petit enfant, quoi, tu vois, et la réalité de ton adolescence. T'as eu un déclic à un moment donné? Un truc qui t'a fait prendre conscience?
Je saurais pas dire. Je pense juste une globalité de tout, des sacrifices, des autres, des moyens que tu dois mettre dedans, du fait que ce soit pas du tout sûr comme carrière. En fait, si tu veux en faire ta carrière, tu peux tout donner pour et lâcher tes études, tes potes, tout, pour une fois de plus ne pas y arriver. Mmh. Parce que ça dépend pas que de toi, ça dépend du niveau des gens qui sont autour de toi. Et c'est pas que... Il y a vraiment une grosse, grosse part de travail dans le sport, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont juste nés pour faire ça et qui ont un don qui est juste dingue. Et ouais, très aléatoire. Donc je pense qu'en grandissant, tu te prends quand même un peu la réalité et tu comprends que pas tous les gens que tu connais et qui font le même sport que toi qui vont finir aux Jeux Olympiques, quoi, tu vois. Je pense que c'est un peu comme les petits garçons qui font du foot et qui rêvent tous d'être Ronaldo. Et quand ils grandissent, ils voient que c'est pas aussi simple que ça. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que c'est plus compliqué que ce qu'on a pu imaginer et rêver enfant.
En fait, c'est intéressant parce que j'ai interviewé l'ostéo de l'équipe de France de basket. Tu vois, et donc il y a, je sais pas si tu connais un peu le parcours de l'équipe de France de basket, mais ils ont été champions d'Europe, tu vois. Et donc il est aussi l'ostéo de Tony Parker et de toute cette génération là, tu vois. Et je lui disais, mais c'est ouf, comme j'ai la sensation parfois que sur le sport à haut niveau comme ça, ça se joue à un moment où ton corps te dit, bah non, en fait, tu peux pas aller plus haut. Et même si ton mental y suit, tu peux avoir un jour une blessure ou un truc, tu vois, qui fait que tu arrêtes et de ce fait-là, tu vas faire autre chose.
C'est ça. C'est complètement ça.
Ouais.
Et même si c'est une petite blessure qui va t'arrêter quelques temps, ça te fait quand même remettre beaucoup de trucs en question. En fait, ce sera toujours un déclencheur pour d'autres choses. Pas forcément défini sur un changement de carrière, mais sur des réflexions, etc. Mais t'es à la merci de ton corps, en fait. C'est pas toi qui décides, c'est ton corps. Et quand il veut plus, il veut plus. Et quand il décide que c'est non, bah c'est non. Tu peux pas te battre là contre, en fait.
C'est intéressant parce que c'est Yvan Bédé qui racontait ça, donc dans un épisode du Boys Club. Je vous mettrai que des liens,
voilà,
dans
vous plein pourrez de écouter. Liens, oui.
Mais tu sais, lui, il était vraiment parti pour faire une carrière de basketteur pro, et il a une blessure à l'époque où il était aux US pour devenir genre joueur universitaire, machin, ce qui t'amène plus tard à faire une carrière de pro. Il a une blessure qui l'a fait tout remettre en question. Et en fait, il s'est arrêté complètement. Il s'est rendu compte que c'était pas ça qu'il voulait faire en vrai. Alors qu'il joue au basket depuis qu'il avait 5 ans, quoi, tu vois. C'est un peu ce qui t'est arrivé aussi, t'as la sensation ?
Je sais pas. Je saurais pas te dire si c'est pas ce que je voulais faire ou c'est ce que je... En fait, c'est une question que je me pose pas. De si c'est ce que je voulais faire ou pas. Est-ce que je regrette ou pas ? C'est une grande question, tu vois. C'est un truc...
Ah, c'est une question que tu te poses vraiment ?
En fait, j'ai eu beaucoup de... Pour moi, c'était un échec quand même, en fait. Je suis très dure avec moi sur ce que je considère comme un échec ou pas. Okay. Mais ça, en fait, je suis pas allée au bout au max de ce que j'aurais pu faire. Enfin, si, je suis allée au max de ce que j'aurais pu faire, mais pas au maximum de ce qui existe dans cette discipline, qui est le sport, tu vois. Donc, je l'ai considéré très longtemps comme un échec. C'était très dur à surmonter, il fallait pas trop m'en parler.
Ah, donc ça veut dire tu aurais considéré ça comme un échec si, par exemple, t'avais pas été championne olympique, quoi.
Ah oui, non, moi, je pense que tu m'aurais fait participer aux Jeux Olympiques, j'aurais été très fière d'être olympienne, parce que c'est fou, c'est une toute petite catégorie de personnes dans le monde qui ont l'occasion de faire ça. Mais si j'avais pas gagné, ça aurait comme été un échec pour moi, et c'est horrible, c'est très triste à dire. Sur le moment, je pense qu'avec du recul différemment, mais sur le moment, ça aurait pu être un échec.
Ok, je perçois un peu mieux ce qui t'amène à faire ton parcours là. Mais donc tu disais tout à l'heure que justement le fait que t'es... arrêter le sport, d'un coup d'un seul, t'ouvre une possibilité de récupérer 13, 14 heures, 15 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on a Laura, quand on s'appelle Laura, pardon, et qu'on a 15 ans, et qu'on décide de récupérer 15 heures par semaine?
Bah, c'était pas fou, parce que j'étais encore malade, donc pas mal d'hôpital et de soins et de machin, donc pas incroyable comme récupération de temps, on a vu mieux. Mais non, j'ai vu plus de potes, j'ai fait un peu mon adolescence, j'ai récupéré mon adolescence, traîner avec des potes pour ne rien faire et juste être dehors, enfin, un truc cool quoi.
D'accord. Comment tu viens en photo alors ?
Par hasard en photo. Juste, j'aimais bien prendre mes potes en photo. J'aimais bien les prendre en photo et je détestais être sur les photos. Donc si je prenais les photos, j'étais pas dessus. Donc ça m'arrangeait plutôt pas mal. Donc j'ai acheté un petit compact, un appareil mais nul, enfin, qui sert juste à rien. Il y avait un logiciel de retouche dedans. Du coup, je me suis amusée à retoucher les photos en mettant les curseurs au maximum et dans tous les sens. C'était horriblement moche. Mais je m'amusais, donc c'était cool. Et du coup, après, j'ai acheté un appareil un peu plus évolué. Je suis allée faire des photos de petits concerts en Suisse.
Attends, t'es passé de « Salut, j'ai acheté un petit compact ».
Oui, mais des tout petits concerts, hein, des petits trucs dans ma ville où il y avait 100, 200 personnes dans la salle. Tu vois, les trucs... Quand tu sais qu'il y a une manif, tu dis, enfin une manifestation un peu cool, tu dis, ah, j'ai envie d'aller faire des photos, j'écris, savoir si je peux, on me dit oui, et puis voilà.
Non, tout le monde ne fait pas ça. Non, mais tu t'en rends compte ou pas ? Entre le moment où tu décides de prendre en photo tes potes, et c'est quoi la... Qu'est-ce qui te fait dire, ok, en fait, j'ai besoin de trouver des trucs à shooter, pas juste mes potes, parce que ça va bien deux minutes, mais c'est relou au bout d'un moment.
Bah, j'aimais bien. Non, je trouvais ça cool, je trouvais ça joli, tu pouvais retoucher des photos, enfin, j'ai pas du tout... Je suis nulle en dessin, je suis nulle en art, je suis nulle en musique. Enfin, vraiment, j'ai rien artistiquement dans ma vie et je pense que j'ai trouvé ce truc. Et qu'on a tous un côté artistique, un côté sportif en nous, avec plein de petites cases. Et à un moment, quand on trouve le truc qui nous rend heureux dans cette case, on la développe. Et là, par hasard, cette case s'est développée en faisant de la photo. Parce que c'était pas le dessin, c'était pas la musique, c'était pas d'autres trucs. Donc c'était ça et... Je pense que ça s'explique pas trop en vrai quand tu sens qu'un truc te fait vibrer à l'intérieur. Même si ce que tu fais n'est pas forcément réussi, encore poussé, etc. Juste, tu te sens bien quand tu le fais.
Ok, et donc ta démarche, c'est de se dire, tu vas trouver les petits concerts autour de toi. Et déjà, tu as une vraie démarche active puisque tu envoies des messages en disant, j'ai envie de venir photographier, est-ce que je peux, quoi, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et t'es reçu comment ?
Je suis reçue, c'était cool. Ouais. On m'a laissé venir, j'ai fait mes trucs, c'était moche. J'étais en mode automatique encore à l'époque, je n'avais pas utilisé un appareil, enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était génial en fait. C'était l'insouciance, c'était vraiment le truc où j'avais pas conscience que la photo... Déjà, je n'avais pas conscience que la photo était un métier à ce moment-là. Je ne savais pas qu'on payait des gens pour faire des photos. C'était très très loin de moi cette réalité-là. Donc c'est juste sur, oh, c'est cool, ça m'occupe, c'est bien. Puis ça s'est développé un peu tout seul, sans que... Par le bouche-oreille, par les trucs. Et...
Quoi ? Ça s'est développé tout seul ?
Ouais.
Non, t'as rien fait ?
Non, mais j'ai rien fait.
J'ai rien fait, n'importe quoi.
J'ai rien fait, moi. J'ai fait mes photos Et j'ai été gentille avec les gens parce qu'ils étaient gentils avec moi et ils m'ont fait confiance et on a fait des trucs ensemble et avec d'autres gens après par le bouche à oreille, tu vois, mais j'ai rien fait.
T'as rien fait?
Pas grand chose en tout cas.
Qu'est-ce qu'il fait alors que les gens ils voulaient à nouveau te contacter, tu penses? Non, mais sérieux.
Non, mais vraiment, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ça a marché. Je ne comprends pas pourquoi ça marche aujourd'hui, en fait.
Ah, toujours là?
C'est un grand mystère pour moi, ouais. Surtout en photo où personne n'est mieux que personne. C'est juste des trucs très différents. Et en fait, pour moi, on ne peut pas comparer des artistes comme on peut comparer des musiciens. Enfin, en fait, un photographe ne va pas du tout faire la même chose qu'un autre. Et je ne comprends pas pourquoi ton travail peut plus plaire ou plus toucher, entre guillemets, qu'un autre à un moment T. Ça sera pas pour toujours, tu vois, mais sur un moment précis, ton travail va plus parler à quelqu'un émotionnellement que celui d'un autre. Mmh. Et peut-être que 10 jours plus tard, le travail de l'autre personne va plus plaire que le tien. Et c'est un truc que je n'arrive pas encore à expliquer et que je comprends pas. Et qui est très...
Ok.
Prend pas mal de mes réflexions quand même, en vrai.
Ah ouais,
ouais.
Vas-y, viens, on va on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Quand est-ce que tu te dis, tiens, en fait, ça pourrait être un métier pour moi?
Je suis pas sûre que je me sois dit ça un jour.
Ah ouais? Mais non, mais en fait, ça va complètement à l'encontre de ce que tu me disais tout à l'heure, où tu me disais, ok, l'ambition, machin, j'ai fait en sorte de grandir,
ouais,
parce que t'as
mais
l'ambition.
C'était pas une ambition d'en vivre. C'était une ambition de faire des trucs que je kiffais, de shooter des gens que j'aimais et qui m'inspiraient.
Okay.
C'était pas une ambition de gagner de l'argent. En fait, j'ai pas l'ambition de l'argent. C'est un truc que j'ai...
Oui.
J'aime pas l'argent. Enfin, c'est un truc, je suis pas à l'aise avec le rapport à l'argent.
T'aimes bien en gagner quand même parce que ça te permet d'en vivre, non? Ça te permet de...
Je demande à n'importe qui, je mets 6 mois à envoyer mes factures. Je suis la pire. C'est un truc...
T'as honte?
Non, juste j'aime pas le rapport à l'argent. Je crois que c'est vraiment un truc... je sais pas. C'est même pas un truc de... Est-ce que mon taf vaut? Est-ce que mon taf vaut quelque chose ou pas? C'est juste, je n'aime pas l'argent. Enfin, c'est un truc... Je n'aime pas ce lien entre les humains.
Ah, tu veux dire le...
La globalité.
La globalité du lien...
De l'argent, ouais.
De l'argent, de ce que ça crée, c'est
ouais,
ça?
Ouais, et puis des hauteurs, enfin, de la société, des différences, des trucs, enfin, c'est un truc, ça devient très, très, très philosophique, là, mais...
Non, mais c'est
ouais,
intéressant.
J'ai un du mal avec ça, encore.
Ok.
Donc, c'était pas du tout un truc d'argent ou d'en vivre, ou que ce soit mon métier. Juste, j'avais envie de faire des trucs cool avec des gens cool, et il y avait pas d'ambition au début, en fait. Ouais, je crois qu'il y en avait pas trop. Parce que je voyais pas ça comme un truc... Comme je savais pas que c'était un métier, comme je pensais pas que je pouvais faire quelque chose dedans, j'avais pas d'ambition d'en faire quelque chose, vu que j'avais pas du tout conscience que c'était faisable.
Ok. C'est quoi le déclic, alors? T'as un déclic? Non, t'as pas de déclic?
Je sais pas s'il y a un déclic, non.
Sérieux? T'as vraiment monté le truc au fur et à mesure. T'as grandi en même temps que tes expériences te faisaient grandir.
C'est ça. Et chaque truc que je fais m'hallucine. Enfin, chaque fois que je suis sur un truc, je suis genre, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Quand je suis sur un Olympia, un Bercy, un truc, j'arrive devant, je suis... Attends, qui est quoi?
Comment t'as... Non, alors, ok. Donc, il y a peut-être de l'inconscient, d'accord. Mais s'il y a juste un moment donné, les gens, ils viennent pas te chercher comme ça. Tu t'as fait des démarches. J'avais vu, par exemple, t'as fait une photo de Mike Horn.
Oui. Ah, alors ça, c'est encore une autre histoire.
Non, mais tu vois, t'as fait une photo de Mike Horn qui est super jolie. T'as quand même, à un moment donné, fait une démarche.
Oui.
T'es allé vers les gens.
En fait, Mike Horn, c'est un peu l'idole de ma maman, tu vois. J'ai grandi okay. avec Mike, tout ça. En plus, il vit en Suisse. Un truc autour de Mike Horn, ma mère lisait ses livres. Elle est allée le voir en conférence en 2000, je crois, un truc comme ça.
Ah ouais.
Quand il n'était pas du tout connu, tu vois, il n'y avait personne. Le mec parlait 3 mots de français, c'était que des insultes. Enfin, c'était un truc génial, quoi. Parce qu'il a grandi avec, dans les fermes, etc., dans la campagne. Et les mots qu'il entendait le plus, c'était des insultes. Donc, il a retenu que ça... Et c'est toujours le cas, et c'est très drôle, très vulgaire, mais ça va tellement avec le personnage, c'est génial. Et j'avais, forcément, je me disais, putain, si un jour je peux shooter mes cornes, ce serait cool, quoi. Mais sans faire de démarche ni rien, parce que ça me semblait inaccessible. Genre vraiment, encore plus que des artistes. Parce que le mec est mondialement connu, il a fait des trucs, mais que personne d'autre a fait sur Terre. Enfin, insane, tu vois. Et un jour, je prends le train de Lausanne à Paris. Et je retouchais mes photos et il y a une dame à côté qui remplissait des papiers et je regarde et je vois le nom de Mike Horn sur les papiers et vraiment j'ai 4 heures de train donc et je me dis c'est maintenant ou jamais, je suis horriblement timide et vraiment je crois que j'ai mis 2 heures de train à lui dire excusez-moi, j'ai vu que vous remplissez des papiers au nom de Mike Horn, j'adorerais pouvoir le photographier, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre un contact ou quelque chose? Il me dit ah, il y a peu de chances qu'il accepte, il aime pas les photos machin, voici mon mail, écrivez, et puis on verra bien. Dame super gentille, on me parle pendant tout le trajet et tout, vraiment très bienveillante et trop gentille, et j'étais trop cool. C'était une trop belle rencontre. Même si je suis arrivée à Paris, je me suis dit, en fait, même s'il n'y a rien derrière, que je n'y arrive pas, j'ai fait une rencontre humaine qui est juste géniale parce que ça m'a... La rencontre m'a un peu bouleversée, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais la dame était tellement douce, tellement gentille, tellement... Enfin, c'était génial. Et donc j'ai ce mail, dont je ne fais rien pendant un an.
Pourquoi t'en fais rien ?
Parce que j'avais rien à proposer de concret. Je me disais, c'est stupide d'écrire juste pour dire, je fais des photos. Enfin, qu'est-ce qu'il en a à faire, en fait, tu vois, enfin. Et je vois qu'il a sa conférence au Grand Rex, c'était il y a un an, deux ans, je sais plus. Sa toute première. Je me dis, c'est une semaine et demie avant. Quand je te dis que je n'organise pas les choses à l'avance, c'est vraiment que je n'organise pas les choses à l'avance. Et genre, elle m'emmène dans un an, on s'est rencontrés il y a un an dans le train. J'ai vu que Mike venait à Paris, je suis à Paris maintenant, est-ce qu'il y a moyen Elle me dit, je t'envoie vers les filles de Mike qui gèrent Mike. Annika et Jessica, ouais, qui sont géniales. Et les filles me disent, on pensait à chercher un photographe pour ça, vas-y. Donc voilà. Donc tu vois, en fait, j'ai dû faire des démarches, mais la première démarche, c'était de te retrouver par hasard dans un train, donc à un horaire. En plus, j'avais changé mon train la veille pour changer d'horaire. Enfin, truc complètement absurde, de le destin m'a mis à côté d'une personne qui était en contact direct avec la personne vers qui je voulais aller, tu vois. C'est un truc de destin qui est juste... Enfin, je peux même pas l'expliquer, tu vois. Et c'est souvent des petits trucs comme ça qui font que dans mon parcours, je me suis retrouvée avec la personne qui ensuite m'a amenée vers, tu vois.
Ok. Donc, ton mail, il dit quand même « Salut, je m'appelle Laura et je fais des photos ». Enfin, je veux dire...
Oui, mais il y avait quand même un contact d'il y a un an où on s'était vu en vrai avant. C'est pas juste « Coucou, je débarque d'une part », c'est « Coucou, on s'est vu il y a un an dans le train, est-ce que vous vous rappelez ?» Est-ce que machin. C'est, je partais pas de zéro, tu vois. C'est assez rare que je parte vraiment de zéro.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview.
Donc, en fait, pour revenir à cette histoire de « pour moi, c'est pas un métier », comment tu finis aujourd'hui par... Non, parce que c'est ton métier, tu vois. J'ai un peu l'impression, quand tu te présentes, que t'es là
« alors moi, c'est... » C'est un passe-temps, hein, toujours.
C'est un peu ça.
Non, mais c'est devenu ton métier.
Oui, mais...
En fait, ce qui m'intéresserait de savoir, et je pense par exemple à tous les jeunes, peut-être qui nous écoutent, tu vois, c'est comment tu fais pour passer du passe-temps à... En fait, ok, ça peut être un métier et je peux gagner de l'argent avec. Et même si ce n'est pas mon objectif premier, il y a un moment donné où tu as quand même un truc... Tu as un agent, t'as quelqu'un qui vient dire « Salut, moi, ma journée de travail, elle vaut autant
?» Non, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je me faisais vraiment sous-payer. En fait, les premiers contrats que j'ai faits à Paris étaient avec une boîte qui disait toujours que j'étais trop cher. J'étais déjà en dessous des prix. Donc, j'ai eu la malchance, entre guillemets, de commencer avec ces gens-là qui essaient de gratter au maximum pour baisser les prix.
C'était une agence, c'est ça qui te...
C'était une boîte de production. Et du coup, quand ils m'engageaient, ils grattaient toujours les prix. Mais ceux de tout le monde, en fait, ce que j'ai su plus tard, tu vois. Et du coup, moi, j'avais pas conscience. Enfin, j'avais pas une vision globale du marché en me disant, ils ont raison. Enfin, s'ils me le disent, c'est qu'ils ont raison. Donc, vu que c'est une grosse boîte, forcément, ils ont les moyens. Donc, s'ils avaient les moyens, ils me payeraient. Naïveté! Donc, j'ai commencé avec ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé en dessous des prix auxquels il faudrait que je travaille. Et un jour, il y a une boîte de prod à qui j'ai dû envoyer un devis. C'était il y a un an et demi, je crois. J'ai envoyé un devis. Et ils m'ont répondu, ils m'ont signé le devis, etc. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Laura, tu viens au bureau demain, il faut qu'on parle. Je viens au bureau. Ils me disent, en fait, t'es en dessous des prix. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Ok. Donc, ils m'ont aidé à remettre mes prix à jour.
C'est qui cette boîte? C'est une boîte avec qui t'avais déjà travaillé? Enfin, je te demande pas de la citer, mais c'est juste...
Je peux la citer, si tu veux. C'est Dark Smile. C'est la boîte de Jérémy Ferrari et de Michael Dion.
Ok.
Qui sont deux personnes qui ont vraiment changé ma vie.
Okay.
Je me suis beaucoup fait engueuler, mais pour me redonner confiance en moi et en ce que je faisais. En fait, en faisant ce que tu fais, le temps que tu y passes, ça a une valeur. Même s'il y a des boîtes qui ne veulent pas te payer parce qu'ils estiment que ça n'a pas assez de valeur, c'est... En fait, travailler avec les gens qui donnent de la valeur à ton travail, et la valeur passe par l'argent. Ce qui est un truc que moi, je n'avais pas du tout. enfin, la valeur ne passe pas que par l'argent, mais dans ce cas-là, quand on te sous-paye vraiment et que même quand on te sous-paye, on te dit que t'es trop cher et qu'on respecte pas ton travail derrière, il y a un problème. Donc, ils m'ont un peu donné ce droit de me révolter et de dire, bon, maintenant, en fait, je travaille avec les gens qui vraiment m'engagent pour ce que je fais et pas juste parce que je fais des photos. Ça a bien changé ma vie, quoi.
Ah ouais.
Enfin, il y a un truc.
Explique-moi.
De légitimité, en fait, tout simplement. Ou des gens que j'admire beaucoup. J'admire vraiment Jérémy.
Alors Jérémy Ferrari, ouais. Si vous ne le connaissez pas, enfin, peut-être vous ne le connaissez pas, mais il est humoriste. Et donc, il a une boîte de prod qui te faisait travailler, c'est ça?
C'est ça. Et ouais, en fait, cette légitimité qui vient de gens que j'admire, qui ont un parcours incroyable, qui sont là depuis des années et qui partent de rien, parce que Jérémy ne part vraiment de rien. C'est en fait quand des gens viennent te dire « Ok, ce que tu fais, ça a une valeur. Aie confiance en toi. Nous, on veut te le dire. Tu fais ce que tu veux derrière, mais nous, on a envie de te dire que ce que tu fais a une valeur. » Quand ça vient de gens que tu admires, c'est tellement précieux, en fait. Enfin,
donc, tu as monté tes prix?
J'ai monté mes prix.
Et tu l'as bien vécu?
Non. Non, pas du tout. Quand les premiers, ceux auxquels je m'attendais, en fait, n'ont pas renouvelé mes contrats. Mais c'est ceux auxquels on s'attendait que ce ne soit pas le cas.
Okay.
Donc, c'était bizarre. Sur le moment, j'ai l'impression de tout perdre. Et en fait, au final, j'ai pu mieux travailler. Parce
c'est
que
trop intéressant.
Moins de charges de travail, en fait, pour gagner la même chose qu'avant. Donc, au lieu de faire des photos à la chaîne, comme j'avais fini par en faire et me dégoûter de ce que je faisais, j'ai pu réapprendre à aimer mon travail. Parce que j'ai des gens qui m'ont dit, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'aller dans le mur, tu vas détester tout ce que tu fais et tu vas tout arrêter. Et ils avaient raison. Parce qu'en fait, quand tu travailles trop, tu peux pas continuer. En plus, artistiquement, tu es obligé de te forcer à créer. Parce que même si les photos que tu prends, c'est des photos de choses pour la plupart qui existent déjà, qui sont des concerts, des spectacles, etc. La phase de retouche, c'est une phase de création où tu dois mettre quelque chose dedans, trouver les couleurs, les lumières, etc. Tu vois.
Et puis même, tu as un œil en tant que photographe, non?
C'est encore une grande question, ça.
Ah ouais?
Je sais pas, cette phrase, j'arrive pas à la définir non plus. Tu vois. On me le dit beaucoup et je suis genre, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, à ton avis?
Ah, c'est bon. c'est une question qui n'a pas encore de réponse, tu vois.
Je pensais que c'était une question rhétorique, mais pour moi, ça veut dire... tu vois, je pense à cette fameuse photo que tu as fait de McFly et Carlito dans les coulisses du Montreux Festival, là, tu sais.
Ouais.
T'en as fait plein avec eux.
Ouais, c'est ça. C'est
mais
que
t'as une photo où ils sortent du gala. Ils sortent
ils
gala,
se font un câlin.
Ils se font un câlin. Et en fait, j'ai la sensation que ton œil à toi, il est là. C'est-à-dire que t'es au bon endroit, au bon moment, en train de saisir ce moment-là de façon très discrète, en fait. Tu vois, on sent que t'es là, mais t'es pas trop là, quoi, tu vois.
Ouais.
De ce fait-là, tu nous invites à partager ce moment avec eux. Ça, pour moi, c'est un œil.
En même temps, sans doute que j'ai raté des trucs à ce moment-là qui se passaient de l'autre côté, tu vois.
Mais t'es zinzin, mais bien sûr que
on
oui, forcément.
Donc, en fait,
tu peux pas
si
être partout.
J'ai une mission de...
Ah ouais, c'est ça que tu te dis. C'est-à-dire que quand tu fais cette photo géniale...
Non, quand je fais cette photo, je me dis, oh, je les aime trop, ils sont trop mignons, je suis trop contente, je suis trop fière d'eux, et j'ai trop envie de capturer ce moment de joie, en fait. C'est,
okay.
C'est un truc instinctif de... quand je sens qu'il se passe un truc émotionnel, je sais qu'il faut que j'y sois et que je vive ça, et je le vis avec eux de cette manière-là, et c'est trop bien.
Ok. Non, parce que, en fait, oui, si tu te dis que forcément t'as raté autre chose, c'est sûr que t'as raté autre chose. T'as peut-être même raté un truc à l'autre bout de la planète.
C'est très probable.
Parce que tu te dis vraiment ça?
Souvent, ouais.
Ah,
non,
ouais,
pas sur le moment. Pas quand
pas
je shoot.
Moment,
quand
ouais,
je shoot, je suis dans mon truc.
Ouais.
Mais ouais. Des fois, je me dis que j'ai sûrement raté des trucs. Mais que, comme je sais pas qu'ils existent et que personne sait qu'ils ont existé, c'est pas trop grave, tu vois.
Exactement.
Mais c'est, en même temps, c'est normal d'y penser et c'est aussi comme ça que tu progresses en te disant ok, donc peut-être que si je m'étais mis à cet endroit-là, j'aurais eu une vue sur les deux endroits. Enfin, en fait, c'est tout un des habitudes de shoot qui se mettent en place en se disant comment être plus efficace tout en restant naturel et émotionnel dans ce que tu fais, être efficace, savoir te placer au bon endroit, ne pas rater des trucs, savoir te dire ok, comme à ce moment-là, ça va être une émotion pour lui qui n'en est peut-être pas une pour moi. Mais c'est, pour lui, c'est important ce moment-là. Peut-être qu'il va s'y passer un truc. Et je pense que c'est aussi la partie du travail qui est plus...
Okay.
Qui crée des réflexes, plus qu'autre chose.
Et ça, c'est un truc qui ne s'apprend pas à l'école ni dans les cours de photo. Ça s'appelle l'empathie, quoi.
Moi, je pense. Ouais, ça doit être ça. J'ai jamais fait de cours de photo, je ne sais pas.
Ah, justement, j'allais te demander. Peut-être est-ce que tu n'as pas suivi de formation particulière, en fait?
Non, aucune. Okay, je suis autodidacte et j'ai eu la chance... d'avoir des conseils de photographes que je croisais quand j'allais sur des concerts ou d'autres événements ou sur les réseaux sociaux où quand je demandais des conseils, ils étaient là et j'ai eu des relations très fortes avec des photographes qui sont devenus des amis qui avaient 40, 50 ans, qui avaient de la carrière derrière et qui ont été tellement bienveillants avec moi et qui m'ont expliqué comment ça se passait, etc. Et je suis très reconnaissante de ça parce que c'est la meilleure école, en fait, d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font et qui te disent « C'est cool, fais comme ça ou fais comme ça et fais attention à ça. » Et des conseils très précieux, quoi.
Et t'allais demander ou les conseils venaient à toi ?
Je crois pas que j'allais demander. Je crois que c'était juste des discussions qui se faisaient toutes seules. Quand c'était sur des événements, parce que tu parles en photographe, en fait. Et je crois que ça venait naturellement dans la discussion. Quand je sentais les gens, je posais quelques questions et tout.
Et comment faisait la Laura timide pour aller discuter avec les gens ?
Ah bah, elle était rouge. Hein. Non, en fait, moi maintenant, et c'est cool, mais à l'époque, quand je faisais des photos, à l'époque, on dirait que je suis tellement vieille et que j'ai tellement 15 ans de photos derrière.
On ne sait pas quel âge tu as. Tu es cher.
Je suis cher. Non, avant, il y avait vraiment...
Non, mais t'es cher. T'sais.
Avant, il y avait vraiment moins de photographies et moins de photographes jeunes. Donc, en fait, t'intriguais les gens quand t'étais là. Donc, on venait plus facilement de parler et savoir ce que tu faisais là.
T'as commencé en quelle année, à peu près ?
2014.
Attends, ça va spoiler ton âge de ouf.
Ouais, mais j'ai déjà spoilé souvent, donc ça va.
Ok, d'accord.
Je crois.
Ouais, donc en fait, à l'époque, c'est sûr qu'il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas encore l'iPhone partout dans les poches, etc. etc. quoi.
Je sais pas, moi j'ai mis longtemps à me mettre sur Instagram.
Pourquoi ?
Parce que je trouvais que c'était nul et que ça dévalorisait la photo. Je savais pas faire de photos, mais j'étais déjà tellement vénère là-dessus. Non, mais tout le monde dit photographe, ils mettent des filtres. Mais c'est ce que je fais aussi, donc en fait, quel est le problème, tu vois ? Mais je sais pas, j'aimais pas ça au début. C'est mon meilleur pote de l'époque qui m'a forcé à m'y mettre. Et c'est devenu mon outil préféré, en fait. De contact avec les gens et tout, c'est génial.
Raconte. Comment t'as fait pour... Qu'est-ce qui fait que Instagram est pas... Comment ? Qu'est-ce qui fait que t'es passé de... Ok, Instagram, c'est de la merde, tout le monde devient photographe. Ah, ok, c'est mon outil de travail préféré.
Beaucoup de choses quand même.
Vas-y, raconte.
Beaucoup, beaucoup. Bah, comme tout, quand tu connais pas quelque chose, tu le juges. Et quand tu commences à connaître, tu peux l'apprécier ou pas. Mais moi, je l'ai apprécié. Et c'était cool d'avoir des retours directs des gens sur mon travail aussi. Je parle pas des likes, je parle vraiment soit des commentaires, soit des messages. Quand des gens disent que ce que tu fais les touche ou les inspire, c'est cool. Quand ils disent qu'ils n'aiment pas pour telle ou telle raison, c'est cool aussi. Et pour ça, c'est devenu trop bien. Parce que avant, pour un des retours sur ton travail de photographe, il fallait exposer. Exposer, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, t'es en vrai à côté de tes œuvres. Et c'est un enfer. C'est un angoisse incroyable. Donc là, en fait, je suis pas à côté de mes œuvres en train d'attendre que les gens disent... Enfin, œuvre, c'est un grand mot, tu vois. À côté de mes photos, en train d'attendre que les gens disent ce qu'ils en pensent. C'est si ça les touche, ils vont réagir. Et si ça les touche pas, ils passeront à côté, tant pis, tu vois. Mais quand t'es timide, c'est bien. Parce que c'est juste virtuel, donc c'est cool.
Je vois ce que tu veux dire. Tu t'es servi d'Insta pour rentrer en contact avec des gens que tu voulais photographier ?
Quelques fois, ouais.
Ouais.
Très peu, mais quelques fois. Ou les autres fois, ça n'a pas abouti.
Pourquoi tu ris ?
Parce que je trouve ça drôle. Enfin, j'aime bien désacraliser ce petit échec de pas avoir de réponse sur Instagram. Parce que c'est un truc où beaucoup on m'écrit, on me dit parmi le ah, mais je suis photographe et quand j'écris aux gens, j'ai pas de réponse, etc. Moi non plus, les gars, en fait. Parce que les gens, si t'as envie de travailler avec des artistes qui sont un peu cotés, le nombre de messages qu'ils ont est aberrant. Et en plus, on leur propose tellement de photos. Enfin, il y a tellement de propositions là-dessus. Et le rapport à l'image est toujours compliqué quand t'es un artiste, quand t'es quelqu'un de mis en avant. Donc c'est normal. Mais il faut tester, ça c'est sûr. Il faut tester toujours. Il faut pas avoir peur de ça. Mais c'est pas grave qu'on te réponde pas. Et moi, souvent, des gens qui m'ont pas répondu, d'un coup, je me suis retrouvée à travailler avec eux. Et c'était trop bien sur le moment. Juste des fois, les choses doivent se faire naturellement et différemment que juste avec un message.
Tu veux dire que tu les as rencontrés par un autre moyen que juste par le message Insta, c'est ça ?
Mais des fois, ça a mis des années, hein, mais...
Et comment tu fais, en fait, est-ce que tu les traques, ces personnes-là ?
Non.
Est-ce que t'as une genre de liste, tu vois, de gens que tu voudrais shooter dans ta life ?
J'ai presque shooté tous les gens que je voulais shooter.
Ah
donc
ouais ?
C'est trop bien. Non, dans le sens où des gens où j'ai envie de shooter tout le monde. Moi, tous les gens gentils, j'ai envie de les shooter.
Okay.
Mais les gens qui ont marqué mon enfance, mon adolescence artistiquement, il y a un truc plus fort parce qu'il y a des années derrière d'admiration, etc. Et ça, j'ai tous pu les shooter et ça s'est tous passé merveilleusement bien.
Par exemple, qui ? Je mettrai des liens dans les notes, hein, comme ça tu m'enverras des photos si tu veux sur ton compte ou sur Insta, je ne sais pas.
Il y a Grand Corps Malade, il y a Orelsan, ça c'était vraiment fou. Ben Mesué aussi, c'était vraiment quelqu'un que je rêvais de shooter.
Okay.
Lui, ça s'est fait par Instagram d'ailleurs. Il y avait Michael Youn, depuis petite, le Morning Life.
Hein, ah oui.
C'était mythique pour moi de shooter Michael. Ça, c'est celui qui a mis plus de temps. Et je crois que j'en oublie pas. Mais c'était vraiment ceux qui... où je savais qu'émotionnellement, ça allait être dur à gérer le jour où j'y arriverais. Parce que leur travail, je ne les connais pas eux, donc si eux, je ne m'entends pas avec, ce n'est pas un problème. Mais leur travail a marqué quelque chose dans ma vie. Et j'ai envie de pouvoir mettre mon émotion et mes images au service de ce que eux m'ont fait vivre émotionnellement. Donc c'était juste trop bien.
Ok. Comment t'as fait par exemple, Michael Youn, tu disais c'était le plus long. Tu lui as d'abord envoyé un message sur Insta.
J'ai envoyé pas mal de messages un peu partout. ça n'a jamais fonctionné, je n'ai jamais eu de réponse. Et il se trouve que sur un tournage, un jour, j'ai rencontré Vincent Dezania, avec qui je me suis très bien entendue, qui est un humain incroyable, vraiment, qui est trop drôle et trop gentil et trop bienveillant.
Et qui est donc le compère, si vous ne l'avez pas, mais qui est le compère de Michael Youn dans plein de trucs, et notamment dans le Morning Live à l'époque, où il était le grand zozo, là, c'est lui.
C'est la bonne
qui aujourd'hui est devenu réal.
Ouais, incroyable. Très très bon acteur aussi sur plein de films. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés sur un tournage, que ça a bien matché, mais qu'il n'y a pas une nouvelle pendant 1-2 ans. Puis d'un coup, c'est un attaché de presse, Léo, qui est aussi un attaché de presse, que j'aime incroyable. Enfin, trop de gens gentils dans ce milieu. Et... m'a dit, ah, Vincent, il aimerait bien qu'on fasse son book avec toi et tout. Est-ce que t'es OK? Je fais OK. Du coup, on fait son book. Il y a un truc émotionnel plus fort qu'en tournage parce qu'on n'est que les deux, enfin les trois avec l'attaché de presse, tu vois. Il y a un truc plus où on peut plus parler humainement et tout. Et on se recroise après de fil en aiguille sur plein d'événements, etc. Et un jour, sur un tournage qui était avec Le Pérave d'ailleurs.
Léo.
Ouais, où oui. Vincent avait un rôle dans le sketch, court-métrage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sur ce coup-là. Et Vincent me disait, on vient de tourner les trucs, on va lancer une émission du Morning Live sur M6 et tout. Vincent, je suis là! Et il me fait, je lui ai dit, Vincent, bah, j'aimerais trop, en fait, on en a déjà parlé, tu sais que j'aime Mickaël, que j'ai trop envie de faire un truc. Si à moi, il me dit, ah, c'est M6, c'est chaud et tout. Et il me dit, attends, je vais écrire à Benjamin, qui est donc le troisième de la team, qui était aussi producteur sur l'émission, parce qu'il est devenu producteur. Il a envoyé mon contact à Ben. Et par la suite, plein de téléphones de tous les côtés. Et un jour, un matin, on m'appelle, ça me réveille. Je décroche la meuf de M6 qui me dit « Bon, bah, en fait, il faudrait qu'on s'organise. Tu viens sur le Morning Night. »
Donc la fameuse émission du Morning Live qu'ils ont fait en exceptionnel, là, c'est ça?
C'est ça.
Il y a quelques mois.
Folle. Et donc, c'était même pas juste aller shooter Mickaël, c'était aller shooter le retour du Morning Live. Et vraiment, au téléphone avec la meuf de M6, j'étais genre « Ah oui, bien sûr !» J'ai raccroché, j'ai fondu en larmes. Et j'étais genre « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je n'en ai parlé à personne avant d'être sur... Enfin, comme souvent, je n'en ai parlé à personne avant d'être sur l'émission parce que je me disais « Ça va planter. C'est pas possible que moi, je débarque à M6 et que je débarque à M6 sur un prime time, qui est la plus grosse chose qui existe en émission, donc où il y a le plus de vues et de gens, sur le Morning Live, enfin le Morning Night, du retour du Morning Live. » Impossible, ça n'existe pas, je peux pas. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai fait « Ah ouais, ok, en fait, c'est vrai. » Et c'était fou parce que j'ai découvert Mickaël sur un stress énorme. Parce que finir 20 ans après, c'est pas...
Et grosse pression pour cette émission.
Et pendant les répétitions, alors qu'on était en retard de fou, comme sur tous les tournages finalement, et que la pression et que le stress, il était bienveillant, doux, à faire des blagues avec tout le monde. Et humainement, j'ai fait OK. En fait, c'est pour ça que je l'aimais. Il y a un truc qui m'a fait dire OK. En fait, tout se réunit aujourd'hui pour expliquer pourquoi j'ai aimé autant le travail de cette personne. C'est parce que c'est une vraie belle personne dans la vie. Et j'ai eu ça avec tous les gens que j'adorais. Et à chaque fois, je me suis dit, ah, j'ai vraiment aimé les bonnes personnes dans ma vie et le travail des bonnes personnes, quoi.
Et donc, tu as quasiment shooté tous les gens que tu voulais shooter. Mais ouais. Bon, même si tu n'as pas d'âge, j'imagine que tu es encore relativement jeune. C'est quoi tes objectifs après?
Je sais pas.
Mais toi qui parlais de...
Non, mais...
C'est quoi la marche du podium? La première marche?
Le plus gros truc, c'est l'Amérique, tu vois. Ce serait d'un jour pouvoir travailler là-bas sur des grosses, grosses productions. Pourquoi pas, tu vois. Mais est-ce que humainement, ça me conviendra? C'est une autre question.
Parce que là, aujourd'hui, tu fais beaucoup de photos de tournage, enfin sur les plateaux de cinéma, quoi. Alors...
Non, pas de cinéma. Enfin, YouTube.
YouTube.
Ouais, de tournage YouTube, pas de plateau de cinéma. J'adorerais en faire un une fois, peut-être. Pourquoi pas? Mais en fait, maintenant, mon truc, c'est d'être heureuse et d'être entourée de gens à qui humainement ça fonctionne bien.
Ok.
Avec qui je me sens libre artistiquement. Et juste quand je retouche mes photos, je suis contente et je les trouve belles. Mais je les trouve aussi belles parce que les gens qui sont dessus sont des beaux humains dans leur façon d'être. Et c'est plus que shooter des têtes, en fait, c'est shooter des humains qui sont gentils, qui sont cool, qui sont bienveillants et à qui je suis fière de travailler. Parce que même si c'est pas les plus connus, c'est les plus gentils. Donc c'est naïf, tu vois, à dire comme ça, mais c'est vraiment, vraiment ce qui me rend heureuse aujourd'hui.
Je suis pas sûr que ce soit si naïf que ça. En fait, il y a un côté un peu, j'aurais envie de dire, qui est joli, en fait, tu vois. Et en fait, c'est en vrai, si c'est ta voix, je trouve que c'est trop cool. C'est, tu vois, c'est une bonne façon de filtrer, en fait. C'est un bon filtre dans ta life. Dire, moi, les gens avec qui ça fit pas, j'ai pas envie de travailler avec eux.
Ouais,
je pense qu'en vrai, c'est plutôt cool, quoi.
En tout cas, c'est comme ça que je suis heureuse. Je sais pas si c'est cool, mais c'est comme ça que je suis heureuse, donc c'est le principal, je pense.
Et donc les US, alors ?
Pourquoi pas ? Corona, etc., on verra, tu vois, mais au moins tenter, voir ce que c'est ailleurs. Je suis pas obligée d'y réussir, ce sera pas un... En tout cas, je les... on verra sur place si j'y vais un jour, mais c'est pas un... C'est plus un truc de me dire, ah, ça me fait kiffer, ça me paraît tellement what the fuck et impossible que... On va tenter, et puis on verra si on se casse la gueule ou pas, quoi. Mais je pense que, en fait, je réfléchis en me disant, si je vais pas tester, je pense que j'aurais des regrets de pas savoir ce que j'aurais pu rater en y allant. Si j'y vais et que ça foire, au moins j'aurais vu.
Ok. Il y a un autre aspect dont tu parles pas, c'est vraiment de l'aspect bouche à oreille, en fait. Enfin, t'en as parlé un tout petit peu en disant, en fait, en vrai, j'ai jamais vraiment démarché qui que ce soit. Comment t'as fait pour entretenir ce bouche à oreille-là? C'est-à-dire que c'est en publiant des photos. Bah, tu racontais notamment la photo, enfin le contact avec Orelsan, qui se fait parce que tu es sur le tournage de Bloqué avec Jonathan Cohen. Comment tu te retrouves à te retrouver sur le tournage de Bloqué ?
Kian.
Voilà.
Je dois une grande partie des choses à Kian.
Kian Kojandi, qui est le gars de Bref. Mec de Bref.
Toujours.
Qu'aujourd'hui, on appelle plutôt, je pense, moins le mec de Bref, mais plutôt Kian Kojandi.
Avec tout ce qu'il fait, c'est fou, quoi.
Et qui était donc derrière la caméra, à la réal et à l'écriture de Bloqué, quoi.
C'est ça.
Il te fait venir sur le tournage.
Ouais. Enfin, l'histoire est un peu plus complexe, mais je finis quand même sur le tournage avec Kian et Nicolas, qui est mon meilleur pote de l'époque, avec qui on travaillait. Lui faisait de la vidéo, moi je fais de la photo. C'était sur un festival d'humour où Kian était là. Kian lui propose de venir voir Serge, le mytho, en tournage. Il m'en parle, je dis à Kian, bon ben, je sais que t'aimes pas qu'on parle de tes projets, on en a parlé avec Nico. Est-ce qu'un jour, il y aurait moyen que je vienne faire des photos juste pour le kiff? Il me dit, ok, je regarde. Puis le lendemain, il me dit, ok, tu peux venir demain. Quoi? Et je pense, de tout ce qu'on a vécu avec Nicolas pendant 5 ans, ça fait 5 ans qu'on est potes, et je pense que de tout ce qu'on a vécu, c'est le jour où j'étais le plus insupportable de ma vie, c'est de l'arène métro jusqu'à arriver sur le tournage voir Orelsan.
Pourquoi?
Parce que j'étais stressée. Orelsan, c'était mes premiers concerts, toute seule, sans mes parents. Premier concert au premier rang, premier festival. Tu vois, il y a un gros truc comme Orelsan, c'était pas rien pour moi. Et je me suis dit, putain, en fait, si je suis déçue, si machin, ce truc. Et c'était fou, en fait. Je pense que j'étais vraiment insupportable ce jour-là.
Et donc, tu shootes Orelsan?
Ouais.
Pendant cette journée-là, c'est ça? Et en fait, si j'ai bien compris, il a pas du tout partagé les photos. Enfin, il était le seul à pas partager du tout tes photos, c'est ça?
Ouais. Déjà, je.
La tristesse.
Déjà, je lui parle pas de la journée, parce qu'en fait, moi, j'avais rien à lui dire. Je voulais juste le prendre en photo. Et il n'y a pas eu de conversation qui s'est enclenchée toute seule. Donc, j'avais pas envie d'aller forcer un truc en mode, ah, je t'aime bien. Enfin, j'ai trop de mal à faire ça. Je suis trop timide et tout. J'étais juste trop contente. J'avais mes photos d'Orelsan. Moi, c'est ce que je voulais. C'était fou, en fait. Et effectivement, tout le monde partage les photos et tout le monde publie et tout, sauf Orelsan. Mais qui m'avait suivi. Mais comme t'es le seul à pas poster, je me dis, bon, il s'est planté le bouton sur Insta, il a appuyé sur s'abonner sans faire exprès, tu vois. Enfin, truc genre. Et je pense, une semaine, deux semaines après, je scroll mon Insta et d'un coup, il publie un truc, mais complètement random. Et je vois sa photo de profil, je fais, ouais. Et en fait, c'était ma photo. Et j'ai écrit en disant, ah putain, elle est cool ta photo de profil. Il me fait, ah putain, je voulais te contacter et tout. Est-ce qu'on peut re-shooter ensemble et tout? Et je pleure vraiment. Et j'étais en Suisse, c'est vraiment.
Tu
gros, gros craquage de. Ok, en fait, il y a Orelsan qui vient de me proposer un shoot. Qui est quoi, en fait? Qui? Et je pleure. Et il y avait ma mère à côté qui me regarde, qui me demande ce qu'il y a, tu vois. Enfin, je pleure dans mon téléphone d'un coup. qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ah, il y aurait Stan et tout qui m'a répondu et qui veut qu'on fasse des photos ensemble. La réaction de ma mère, c'était, t'es sûr que c'est le vrai?
Ça ne vient pas de nulle part.
C'est génial. Donc, beaucoup plus calme que moi sur le moment. Ouais. Non, c'était le vrai. C'était vraiment son vrai compte. C'était vraiment lui. C'était, tout allait bien. Mais trop drôle, quoi. Cette réaction m'avait fait trop rire sur le moment.
Tu disais que tu voulais aller aux US. Tu voudrais shooter qui, alors? Ah bah vas-y.
Moi, j'aimerais shooter Lady Gaga.
Ah ouais?
Ouais, j'adore son univers. J'adore tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle fait, ses valeurs, etc., ce qu'elle défend. C'est une artiste qui me touche vraiment beaucoup. Donc, si un jour ça peut se faire, ce serait génial. Si ça se fait pas, pas grave. Parce que j'ai eu la chance de naître à une époque où elle était, où j'ai pu admirer son travail et me nourrir de ça aussi. Donc, mais c'est aussi une artiste qui est depuis très longtemps dans ma vie, du coup, avec son travail. Donc, forcément, il y a une attache, quoi.
Est-ce que t'as déjà entamé un process vers Lady Gaga d'une manière ou d'une autre?
Non. Non, non. Non. Dans mes rêves, déjà, c'est pas mal. J'en ai rêvé. En fait, je crois que c'est la base de tout. C'est rêver de trucs.
Tu veux dire, t'en as rêvé consciemment dans une, pendant une nuit,
non,
c'est ça?
Non, mais tu vois, c'est un rêve. Ah oui. Enfin, même... Non, j'en ai pas rêvé dans une nuit, je crois. Bon, je m'en souviens pas. Mais non, mais tu vois, c'est un... Si tu me félicitais mes rêves de vie, ça fait partie de mes rêves de vie. Donc j'en ai rêvé. Donc je pense que c'est la... Tout comme j'ai rêvé de Shooter Alsan, et que ça arrivait après très longtemps et très longtemps de rêve. Mais je pense que la première démarche pour quelque chose, c'est d'en rêver. Parce que rêver, c'est un mot très fort qui veut dire que ça vient vraiment de l'intérieur de toi et d'un truc que tu veux vraiment faire. Et je pense que c'est trop bien d'avoir des rêves. Qui se réalisent ou pas, hein, tu vois, mais d'avoir des rêves, ça rend vivant. Du coup, je trouve ça trop cool.
Il y a une dernière question que j'aimerais te poser. Et c'est une question que j'aimerais poser à tous mes invités désormais. C'est, selon toi, c'est quoi la grande leçon qu'on pourrait tirer de ton parcours? Ou que tu pourrais tirer de ton parcours?
C'est très compliqué, hein. La grande leçon.
C'est pas obligé d'être une grande leçon, d'ailleurs.
Juste si elle est moyenne, ça va. Je pense que c'est de pas maîtriser les choses. C'est qu'on peut pas maîtriser une vie, on peut pas décider de comment elle sera, parce que ça va dépendre de tout ce qui va arriver entre deux. Des rencontres, des gens, des blessures, des maladies, de tout, en fait. C'est de pas essayer de maîtriser la suite, parce que c'est pas maîtrisable. Et quand on maîtrise pas, c'est cool aussi. Enfin, ça peut amener à des trucs cool.
Toi, t'es championne en lâcher prise, quoi.
Non. Non, je dirais pas ça, mais j'essaye.
Ouais, c'est cool. T'as beau ne pas avoir d'âge, n'est-ce pas? J'ai la sensation que t'es encore jeune. Et franchement, connaître ça à ton âge jeune, mais qui n'existe pas, franchement, c'est classe.
Non.
Merci beaucoup, Laura, pour
Merci
ce moment passé en ta
toi.
Compagnie. C'était trop
c'est
bien.
Trop cool.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.